sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le 27 novembre 2009 s'est déroulée sous la coupole de l'Institut de France la séance annuelle publique de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. André Vaucher, membre de l'Académie, a ouvert et présidé la séance. Il a prononcé le discours d'hommage aux membres et correspondants de l'Académie disparus en 2009. Dans une seconde partie, il a rappelé les nombreuses activités de l'Académie accomplies au cours de l'année. Son confrère Pierre-Sylvain Filioza a ensuite lu le palmarès 2009 et proclamé les noms des archivistes paléographes reçus au concours cette année, une tradition de l'Académie depuis 1833. Le secrétaire perpétuel de l'Académie, l'égyptologue Jean Leclan, a ensuite prononcé la locution d'accueil, insistant sur le rôle scientifique de l'Académie et la présence de l'archéologie française en Anatolie au cours des siècles, en rapport avec la saison turque en France qui prendra fin en mars 2010. La séance s'est poursuivie par la lecture de deux discours, celui de Pierre Toubert, membre de l'Académie, intitulé « Perception et gestion des crises dans l'Occident médiéval », et celui de Juliette Delagenière, membre de l'Académie, sur la prospection et les fouilles archéologiques françaises en Turquie. Canal Académie vous propose d'écouter l'enregistrement partiel de cette séance. Vous entendrez dans cette émission le discours d'André Vaucher, le discours de Jean Leclan, celui de Pierre Toubert et le discours de Juliette Delagenièvre. Pour la lecture du palmarès, nous renvoyons au site internet de l'Académie qui publie en ligne la liste des prix et des lauréats de l'année 2009. Une quarantaine de prix sont distribués cette année. Retrouvons sous la coupole André Vaucher.
Comme le veut la tradition, il revient au président en exercice de présenter un rapide bilan des activités de notre Académie pour l'année 2008. Vous me permettrez de rappeler d'abord la mémoire de ceux qui nous ont quittés depuis la séance de rentrée inaugurale solennelle du 21 novembre 2008. Robert Étienne, élu membre de l'Académie en 1999, après en avoir été le correspondant depuis 1988, est décédé à Bordeaux le 4 janvier 2009. Né à Mérignac, Gironde, le 18 janvier 1921, ancien élève de l'École normale supérieure, 1942, et ancien membre de l'École française de Rome, 1947, il commença par fouiller à Volubilis, au Maroc, et à Apollonia, en Libye. Mais sa carrière et sa réputation scientifique sont surtout liées à l'Aquitaine et à la péninsule ibérique. Il enseigna l'histoire romaine à l'université de Bordeaux III, de 1949 à 1988, et il y a créé le Centre Pierre Paris, qui, sous son impulsion, devint une grande maison de l'archéologie et a donné naissance au Centre Ausonius, renommé pour ses travaux et ses publications. Après avoir étudié le culte impérial en Espagne d'Auguste à Dioclétien, il dirigea d'importantes fouilles à Conimbriga et Sancu Cufate au Portugal, d'où il tira la matière de plusieurs volumes très importants pour l'histoire économique et sociale de la péninsule ibérique à l'époque romaine. Attiré par les marges de l'Empire romain, il fouilla également, après 1990, le site de Sarmizegetusa en Roumanie. Mais cet homme de terrain avait aussi une vaste culture historique qui lui permit de publier plusieurs ouvrages de synthèse, dont certains comme « La vie quotidienne à Pompéi » et son Jules César sont devenus des classiques. Avec lui disparaît une des grandes figures de l'archéologie et de l'histoire romaine en France, ainsi qu'une personnalité brillante et chaleureuse. Né en 1924 à Neunkirchen en Sarre, notre associé allemand Karl Ferdinand Werner, qui avait été élu à l'Académie en 1991, est décédé à Tegernsee en Bavière le 8 décembre 2008. Éminent médiéviste, il dirigea l'Institut historique allemand de Paris de 1968 à 1989 et il en fit le centre même des relations entre les historiens français et allemands de sa génération. Spécialiste des institutions du haut Moyen-Âge français et des structures féodales en France et en Allemagne, il fonda en 1973 la revue Francia, qui a rendu et rend encore de grands services aux chercheurs de notre pays. Parmi ses nombreux ouvrages, on rappellera ses structures politiques du monde franc en 1979, le tome premier de l'histoire de France dirigé par Jean Favier, intitulé « Les origines » 1984, et enfin, en 1998, « La naissance de la noblesse, l'essor des élites politiques en Europe ». Avec lui, nous avons perdu un confrère d'un grand talent qui fut un des principaux artisans de la collaboration franco-allemande dans le domaine des sciences historiques. Domenico Maffei, membre associé italien de notre académie depuis 1999, est décédé à Sienne le 4 juillet 2009. Docteur en droit des universités de Pise et Harvard, professeur d'histoire du droit à l'Université de Rome La Sapienza de 1972 à 1995, il a consacré de nombreuses études à l'étude de l'humanisme juridique et à l'histoire de l'enseignement du droit dans les universités italiennes et européennes à l'époque de la Renaissance. Ce grand savant était un animateur remarquable qui sut mener à bien la publication du catalogue des manuscrits du Collège d'Espagne de Bologne. Avec lui disparaît un des chefs de file de la très brillante école italienne d'histoire des droits médiévaux. Dietrich von Bothmer, membre associé américain de notre académie depuis 1997, est décédé le 12 octobre 2009 à l'âge de 91 ans. D'origine allemande, il émigra avant la guerre aux États-Unis, où il fit des études d'archéologie. Conservateur du département d'art grec et romain du Metropolitan Museum of Arts de New York, il en devint le conservateur en chef en 1959, tout en enseignant à l'Institute of Fine Arts de New York. Président du comité américain du Corpus Vasorum Antiquorum, il est l'auteur d'importants ouvrages sur l'art grec, en particulier Amazons in Greek Art, 1957, Greek Vase Painting, An Introduction, 1972, et Euphronios, peintre à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, 1990. Ce spécialiste mondialement réputé avait une connaissance exceptionnelle de la céramique grecque et avait enrichi les collections du Metropolitan Museum of Art en y faisant entrer des pièces de premier ordre. Georges Tatt, qui avait été nommé correspondant de l'Académie en 1989, est mort le 5 juin 2009 à Joigny, à l'âge de 66 ans. Archéologue et byzantiniste, il était le spécialiste des sociétés rurales de la Syrie du Nord, des 2e au 7e siècle après Jésus-Christ, mais également un fin connaisseur du Proche-Orient actuel. Il avait été en effet directeur de l'Institut français d'archéologie du Proche-Orient à Damas, de 1981 à 1990, et conseiller culturel à l'ambassade de France à Bagdad de 2003 à 2007. Professeur d'histoire ancienne à l'Université de Versailles, il avait été directeur scientifique adjoint au département des sciences humaines et sociales du CNRS. Il avait publié en 2004 un important volume sur Justinien, l'épopée de l'Empire d'Orient, 527-565. Angeliki Layou, de nationalité grecque, qui avait été élue correspondante de notre académie en 2004, est décédée à Harvard le 11 décembre 2008, à l'âge de 68 ans. Professeure d'histoire byzantine à Harvard et membre de l'Académie d'Athènes, elle dirigea de 1989 à 1999 le centre de recherche de Dumbarton Oaks à Washington, auquel elle donna un rayonnement inégalé, et dont elle fit le foyer de multiples collaborations, en particulier avec de nombreux chercheurs de notre pays. Spécialiste de l'histoire économique du monde byzantin, elle avait dirigé l'ouvrage fondamental que constitue « The Economic History of Byzantium » en 2 volumes, paru en 2002. Elle était très appréciée en France, où sa disparition précoce a suscité une vive émotion et beaucoup de regrets. Monsieur Terukazu Akiyama est mort à Tokyo le 10 mars 2009, à l'âge de 90 ans. Notre académie l'avait élu correspondant en 1984. Professeur d'histoire de l'art à l'Université de Tokyo, c'était une sommité dans le domaine de l'art extrême-oriental et plus particulièrement de l'art de la cour du Japon médiéval et de la peinture japonaise de cette époque qu'il compara à celle de la Chine et de l'Asie centrale. Il était très connu au Japon grâce à ses nombreuses publications qui faisaient autorité et il a formé plusieurs générations de chercheurs en histoire de l'art. Excellent connaisseur de notre langue, il a joué un grand rôle dans les relations culturelles entre nos deux pays. Après avoir rendu hommage à la mémoire de ces savants français et étrangers, dont la disparition est une lourde perte pour notre Académie, il convient de saluer l'élection de deux nouveaux membres, de 6 correspondants français et de 6 correspondants étrangers. Monsieur Jean-Pierre Sodini a été élu académicien le 28 octobre 2008. Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres classiques, ancien membre de l'École française d'Athènes, il a commencé sa carrière comme chargé de recherche au CNRS auprès de l'Institut français d'Istanbul, alors dirigé par Henri Metzger, puis il a accompli toute sa carrière universitaire à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont il est aujourd'hui professeur émérite. Archéologue, spécialiste des époques paléochrétiennes et byzantines, Jean-Pierre Sodini a notamment fouillé en Grèce, à Thasos, en Albanie, à Bilis, en Turquie, à Xanthos, et en Syrie, à Dès et Kalatseman. Auteur de nombreux ouvrages, monographies et articles, il est actuellement en train d'achever la publication de deux grands ensembles monumentaux, la cathédrale de Xanthos en Lycie et le célèbre monastère stylite Saint-Siméon à Kalatseman. Monsieur Olivier Picard, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé d'histoire, a été membre de l'École française d'Athènes, dont il fut le directeur de 1981 à 1992. Professeur d'histoire grecque à l'Université de Paris-10-Nanterre, puis à celle de Paris-Sorbonne, il a dirigé la Maison de l'archéologie et de l'ethnologie qu'il avait fondée à Nanterre en 1996. Numismate et archéologue, il est le spécialiste par excellence du site de Thasos, mais aussi des monnayages du monde grec antique. Co-directeur de la revue numismatique et de la revue des études grecques, il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles, parmi lesquels on citera Chalcis et la Confédération Eubéenne, études de numismatique et d'histoire, 1979, et plus récemment, Monnaie de bronze de Marseille, analyse, classement politique monétaire, dans 2007. 6 correspondants français ont également été élus le 19 juin 2009. Madame Nicole Berriou, professeure d'histoire du Moyen-Âge à l'Université de Lyon 2 et membre de l'Institut universitaire de France, spécialiste d'histoire religieuse et culturelle de l'Occident médiéval, et en particulier de la prédication et des ordres mendiants. Madame Annie Cobet, archéologue, conservateur honoraire au Musée du Louvre, spécialiste du Proche-Orient antique. Monsieur François-Xavier Dillmann, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, spécialiste des langues et des cultures de la Scandinavie ancienne et médiévale. Monsieur Daniel Levin, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, spécialiste de l'Amérique précolombienne. Monsieur Dominique Mullier, directeur de l'École française d'Athènes, helléniste et épigraphiste. Monsieur Johan Schade, professeur d'histoire romaine au Collège de France, spécialiste d'archéologie, d'épigraphie latine et d'histoire de la religion romaine. Madame Madeleine Scopello, directeur de recherche au CNRS, historienne des religions orientales et spécialiste des gnostiques et de la gnose. Monsieur Alain Toth, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, sinologue et archéologue. Dans sa séance du 6 novembre 2009, l'Académie a nommé 6 correspondants étrangers. Madame Lina Bolzoni, de nationalité italienne, professeure à l'École normale supérieure de Pise et à l'Université de New York, connue pour ses travaux sur l'humanisme et la rhétorique dans l'Italie de la Renaissance. Monsieur François de Calataille, de nationalité belge, professeur à l'Université libre de Bruxelles et à l'École pratique des hautes études, est un éminent connaisseur de la numismatique antique et de l'histoire économique du monde grec. Monsieur André Couture, de nationalité canadienne, professeur d'histoire des religions à l'Université Laval de Québec, est un spécialiste de l'hindouisme. Monsieur Gennady Kochelenko, de nationalité russe, membre de l'Institut d'archéologie de l'Académie des sciences de Russie, est un archéologue spécialiste de la civilisation parthe. Monsieur Alessandro De Maigret, de nationalité italienne, professeur à l'Université de Naples l'Orientale, est un archéologue spécialiste de la péninsule arabique à l'époque pré-islamique. Monsieur Antonio Padoa-Schioppa, de nationalité italienne, professeur émérite à l'Université de Milan, est historien du droit et des institutions médiévales. Monsieur Salvatore Settis, de nationalité italienne, directeur de l'École normale supérieure de Pise, ancien directeur du musée de la Fondation Getty à Los Angeles, archéologue et historien de l'art, est une grande figure de la vie culturelle en Italie. Monsieur Michel Valloggia, de nationalité suisse, professeur honoraire à l'Université de Genève et spécialiste d'égyptologie. Depuis notre dernière rentrée solennelle, l'Académie s'est réunie 33 fois pour ses séances hebdomadaires publiques, au cours desquelles 43 communications et 12 notes d'information ont été présentées, ainsi que de nombreux hommages. Plusieurs de ces séances se sont déroulées dans le cadre de colloques et de journées d'études organisées ou co-organisées par notre Académie. Parmi ces événements, citons le colloque « Relations, échanges et transferts en Europe dans les derniers siècles du Moyen-Âge », organisé en collaboration par M. Jean-Marie Meuglin, professeur à l'Université de Paris 12, en l'honneur de notre regretté confrère Carl Ferdinand Werner, dont j'ai évoqué précédemment l'œuvre et la figure. Colloque qui s'est tenu du 4 au 6 décembre 2008 à la Fondation Del Duca. Le colloque sur les textes de Nag Hammadi, Histoire des religions et approches contemporaines, organisé par notre confrère Jean-Pierre Mahé, en collaboration avec M. Paul-Hubert Poirier, notre correspondant canadien, et Mme Madeleine Scopello, spécialiste des textes gnostiques et du gnosticisme, qui est devenue entre-temps notre correspondante. Ce colloque s'est tenu les 11 et 12 décembre 2008. Le colloque « Lire un texte vieilli du Moyen-Âge à nos jours », réuni par notre confrère Michel Zinc, professeur au Collège de France, a permis aux spécialistes de la littérature et de l'histoire des textes de réfléchir sur les diverses attitudes adoptées par les éditeurs de textes écrits dans les langues européennes modernes, mais devenus pour nous archaïques, conservation, modernisation ou traduction. Ce colloque s'est tenu du 1er au 3 avril 2009. Le colloque sur les projets de croisade du Moyen-Âge à nos jours, 13e-17e siècle, s'est tenu les 12 et 13 juin, était organisé en collaboration avec la Casa de Velázquez et placé sous le patronage de notre confrère Jean Richard. Il a été l'occasion de s'interroger sur le phénomène des croisades tardives, tourné d'abord vers la récupératio de la Terre Sainte, puis de plus en plus vers la menace plus proche des hérétiques et des Turcs dans la chrétienté de la fin du Moyen-Âge. Le colloque Philodème la calomnie, qui s'est tenu du 17 au 19 juin, organisé par M. Delattre, collaborateur de l'Académie, avec le soutien de celle-ci, a eu pour objet l'étude des deux volumina carbonisés provenant de la bibliothèque grecque d'Herculanum, qui sont propriétés de l'Institut de France. Ce fut l'occasion pour les spécialistes de nous présenter un bilan des dernières avancées techniques accomplies par la papyrologie, ainsi qu'un premier aperçu du traité de Philodème sur la calomnie, contenu dans l'un de ses manuscrits. Les 9 et 10 octobre 2009 s'est tenu sous la présidence de M. Jean Leclan le 20e colloque international de la Villa Kérylos, organisé par Mme Juliette de la Genière et M. André Vaucher, membre de l'Académie, sur les sanctuaires et leur rayonnement dans le monde méditerranéen, de l'Antiquité à l'époque moderne. En étudiant cette question dans une perspective diachronique, depuis l'Égypte pharaonique jusqu'à la contre-réforme catholique, ces travaux ont permis de mieux comprendre les fonctions de ces lieux sacrés présents dans toutes les civilisations qui se sont succédées sur les rives de la Méditerranée et dans les régions contiguës, ainsi que les modalités de leur inscription dans le territoire. Le 9 janvier 2009 s'est tenue une journée d'études organisée conjointement par notre Académie et par la Société asiatique, dont notre confrère M. Pierre-Sylvain Filiosa est le président, sur les missionnaires et la découverte de l'Extrême-Orient. Elle a permis de mettre en lumière le rôle éminent que jouèrent tant en Chine qu'au Japon au Vietnam et au Siam, des missionnaires chrétiens des différents ordres religieux qui firent connaître à l'Europe les langues de ces pays et furent à l'origine d'échanges culturels entre l'Occident et l'Extrême-Orient dans le domaine des sciences et des arts. Les 12 et 13 février 2009, l'Académie a accueilli la réunion annuelle du bureau de l'Union académique internationale en présence de son président, M. Miklos Marot, de notre secrétaire perpétuel, M. Jean Leclan, et de nos représentants à cette instance, nos confrères Bernard Potier et Jacques Jouanna. Les 9 et 10 octobre 2009, notre confrère, M. André Laronde, a présidé à l'Institut la conférence des Académies des sciences, arts et lettres, réunissant 31 académies de province dont il est le président. Le thème de la rencontre était « Les académies de province et le progrès social du XVIIIe siècle à 1940 ». Le 30 janvier et le 1er février 2009, l'Académie a participé aux troisièmes rencontres du livre en sciences humaines, organisées par la Maison des sciences de l'homme, à l'espace des Blancs-Manteaux. Un dossier documentaire sur nos publications a été distribué à cette occasion à de nombreux visiteurs. Dimanche 21 septembre, l'Institut a participé à la 26e journée du patrimoine en ouvrant ses portes à quelques 6000 visiteurs qui se sont pressés sous la coupole. Dans la perspective de l'année de la Turquie en France, notre Académie a présenté dans une vitrine divers documents provenant du fonds Louis Robert relatifs aux recherches épigraphiques effectuées par ce grand savant dans ce pays, ainsi qu'un diaporama présentant la vie et les travaux de notre compagnie. Le 23 octobre dernier, en collaboration avec la Réunion des musées nationaux, a été présenté à l'Académie l'ouvrage de notre correspondant M. Oleg Grabar, intitulé « Images en terre d'islam », en présence de nombreux assistants. Lors de la séance solennelle de rentrée des cinq académies, qui s'est tenue le 27 octobre dernier, sur le thème de « La lumière », notre Académie a été représentée par son président, M. André Vaucher, qui a prononcé un discours intitulé « Lumière du Moyen-Âge ». Diverses personnalités du monde politique et culturel ont rendu visite à notre Académie au cours de l'année écoulée. Le 25 juin 2009, le secrétaire perpétuel, M. Jean Leclan, a reçu en compagnie de M. Jean-François Jarige et Franciscus Verhelen, Mme Chu Kung-shin, directrice du Musée national de Taïwan. Le 9 octobre, à l'occasion de sa visite à l'Académie des Beaux-Arts, M. Wang Wenzhang, vice-ministre de la Culture de la République de Chine populaire, a rencontré des membres de notre Académie spécialistes de l'Extrême-Orient. Le 20 octobre, le secrétaire perpétuel, M. Jean Leclan, a reçu le ministre de la Culture du Soudan, le Dr Mohamed Youssef, accompagné d'une délégation de personnalités appartenant au monde de la culture et des musées. Le ministre a remercié M. Leclan pour le rôle éminent qu'il a joué dans le développement des recherches archéologiques au Soudan. Lors de sa séance du 23 octobre, suite à une motion qu'elle avait adoptée le 13 février 2009 pour protester contre la suppression des bourses de recherche, appelées Lavoisier, qui risquaient d'handicaper l'activité de l'École biblique de Jérusalem et de l'Institut français d'Istanbul, l'Académie a accueilli M. Christian Massé, directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats au ministère des Affaires étrangères et européennes, accompagné de Mme Hélène Duchemin, directrice des politiques de mobilité et d'attractivité au même ministère. Après avoir donné des assurances au sujet du fonctionnement des instituts de recherche français à l'étranger, M. Massé a défini les missions fondamentales de sa direction et a mis l'accent sur ses principales orientations dans le domaine de la recherche en archéologie et en sciences humaines. Au terme d'un intéressant débat avec les membres de l'Académie, il a pris l'engagement de la consulter à chaque fois que des réformes seraient engagées dans les domaines relevant de sa compétence. Enfin, signalons que se tient actuellement au musée Jacquemart-André, dont notre confrère M. Jean-Pierre Bablon est président de la Fondation, une remarquable exposition consacrée à Bruegel Memling van Eyck de la collection Bruckenthal, qui connaît un grand succès de public et a été saluée par la presse unanime comme un important événement culturel. En plus des séances, une cinquantaine de réunions de commissions se sont tenues à l'Académie depuis novembre 2008. Certaines d'entre elles ont été consacrées aux écoles françaises de Rome et d'Athènes, à l'école française d'Extrême-Orient, et à l'école biblique de Jérusalem, auxquels il faut ajouter les commissions administratives et, depuis l'an dernier, la commission chargée de préparer la réforme de nos statuts, dont le rapporteur est M. Marc Filonenko. Mais la grande majorité des commissions, soit 33 d'entre elles, ont été consacrées à l'attribution de prix et de bourses destinées à récompenser les travaux et les recherches de divers savants. Leur liste sera donnée dans un instant par notre vice-président, M. Pierre-Sylvain Filioza, lors de la lecture du palmarès. Parmi ces prix, signalons cependant, en raison de leur montant particulièrement élevé, le Grand Prix d'archéologie de la Fondation Sino et Simone Del Duca de l'Institut de France, que notre Académie a décidé d'attribuer à la mission archéologique de Xantos et du Letton en Turquie, dirigée par M. Jacques Descourtil, et le prix Joseph Carroll pour les études américanistes, qui a été décerné pour la première fois par notre Académie à Mme Aïcha Bachir Bacha pour la poursuite de ses travaux sur le site archéologique d'Animas Altas au Pérou. Chaque année, le président rappelle l'ampleur du travail de publication de notre Académie, auquel le secrétaire perpétuel et ses services, ainsi que plusieurs de nos confrères, consacrent beaucoup de temps et d'énergie. L'année 2009 a été particulièrement riche de ce point de vue-là, et il n'est guère possible de donner la liste détaillée de toutes les parutions récentes. Pour les périodiques, signalons que sont parus deux volumes des comptes rendus de l'Académie des inscriptions, les CRAI, pour l'année 2007, soit 1600 pages, ainsi que deux volumes du Journal des savants, les volumes 2008-2 et 2009-1, le tome 38 des Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres consacré aux monnaies comme témoins du culte d'Isis et de Sérapis, un volume des Monuments Pillaux, ainsi que le tome 19 des cahiers de la Villa Kérylos consacré à un siècle d'architecture sur les bords de la Méditerranée, la Villa Kérylos, joyau d'inspiration grecque et lieu de mémoire de la culture antique. Ont été également publiés en 2009 un volume des documents relatifs à l'histoire des croisades, consacré au projet de croisade de la fin du Moyen-Âge, ainsi que le recueil des chartes d'Henri le Libéral dans la série des chartes et diplômes. Dans le cadre du recueil des historiens de la France, ont été édités les Contes de l'Argentier de Charles le Téméraire, tome 10-4, ainsi que le Nécrologe de l'abbaye de la Sauve-Majeure. Divers colloques ont été également publiés par les soins de l'Académie, Images et conceptions du monde dans les écritures figuratives, les actes de la journée d'études sur le 150e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la France et le Japon, ceux de la journée d'études anglo-normande, ainsi que Bouddhisme en Asie, monuments et littérature, colloque en l'honneur d'Alfred Fouché, 1865-1952. Enfin, 6 nouveaux volumes sont venus compléter la carte archéologique de la Gaule et 8 autres ont fait l'objet d'une réédition. Mais nous savons tous qu'il ne suffit pas de publier. Encore faut-il que nos publications, qui représentent chaque année un nombre impressionnant de milliers de pages, soient facilement accessibles. L'Académie s'est engagée depuis 2 ans dans un projet de mise en ligne de ses périodiques sur le portail public et gratuit Percé, qui accueille les principales revues françaises en sciences humaines et sociales. Les CRAI sont la première publication concernée. Ils sont déjà consultables et téléchargeables de 1940 à 2005 sur le site Percé, où des outils de recherche performants en permettent une exploitation renouvelée. Le reste de la collection sera progressivement mis en ligne d'ici le milieu de 2010. Dans la perspective de donner une visibilité toujours plus grande aux travaux de l'Académie, les monuments Pillaux et le journal des savants seront également mis en ligne entre 2010 et 2012. Par ailleurs, le site Internet de l'Académie est en cours de transformation depuis le début de l'été dernier. L'objet de cette mise à jour est de permettre d'accéder directement à une sélection d'articles, discours et interviews diverses des membres de l'Académie. Dans la partie droite de l'affiche figure un choix de liens. Ceci s'effectue essentiellement avec des sites francophones d'édition numérique, des web radios, à commencer par Canal Académie, qui bénéficie d'une large audience, en proposant des accès libres et gratuits. Nous espérons que ce bref aperçu donnera une idée de l'ampleur des actions que mène notre Académie, héritière d'une tradition scientifique pluricentenaire, mais toujours en étroite relation avec les problématiques de la recherche actuelle. Dans les périodes de difficultés budgétaires et de crise des institutions universitaires comme celles que nous traversons, on voit réapparaître avec plus de force encore qu'en temps ordinaire la tendance à remettre en cause la place de la recherche fondamentale et les moyens à accorder aux diverses disciplines qui contribuent à montrer que le monde actuel ne peut être analysé et compris que dans son épaisseur temporelle. Par ses actions limitées, mais qu'elle peut mener en toute indépendance grâce à des donateurs généreux, dont certains sont présents parmi nous aujourd'hui, notre Académie doit continuer plus que jamais à jouer un rôle fédérateur, bien au-delà du cercle forcément restreint de ses membres, de ses associés et de ses correspondants. De nombreux chercheurs et spécialistes, dans les disciplines qui sont du ressort de notre Académie, contribuent remarquablement à son rayonnement par leur communication, leurs notes d'information et par le rôle qu'ils jouent dans l'organisation de colloques et de diverses réunions scientifiques, qui se matérialisent ensuite dans les multiples publications de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, apportant ainsi une belle justification à son action. Nous tenons donc, avant la lecture du palmarès des prix par notre vice-président et les discours de nos confrères Mme Juliette de la Genière et M. Pierre Toubert, à les en remercier en espérant que le bilan 2010, que lira l'an prochain mon successeur, sera encore plus riche et varié que celui que je viens d'avoir l'honneur de vous présenter.
Monsieur le Chancelier, Mesdames, Messieurs les secrétaires perpétuels, Excellences, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, par vocation, l'éventail des actions menées par l'Académie dans les domaines relevant de sa compétence, c'est-à-dire l'orientalisme, l'Antiquité classique, le Moyen-Âge, l'humanisme, prend les diverses formes d'organisation que notre président puis notre vice-président viennent d'énumérer à la faveur de la présentation de nos activités et de la proclamation de nos prix. Aussi, entendons-nous favoriser la transmission et valoriser les savoirs relevant des sciences de l'érudition, mais également orienter et soutenir les champs de recherche parmi les plus prometteurs. Au vrai, protéger de l'influence des modes et des aléas du monde par l'auguste coupole de ce nouveau loger en un lieu subtil, invitant à de fécondes transmutations en vue de repousser toujours plus avant les acquis de la science. Depuis 1990, il m'en revient, en tant que secrétaire perpétuel, de vous introduire à la partie scientifique de notre réunion. Pour régler celle-ci, le bureau de notre compagnie tend à prendre en considération une certaine actualité dans son choix des thèmes retenus, un aspect commémoratif étant éventuellement susceptible de guider notre décision. En effet, notre compagnie, qui se veut être un lieu pour excellence d'érudition, tient à montrer comment l'étude du passé permet de mieux situer dans une perspective humaniste, les faits les plus présents et de mieux appréhender les évolutions du futur. C'est selon ce principe que nous avons souhaité cette année aborder l'un des problèmes actuels parmi ceux qui se préoccupent toujours davantage nos sociétés, celui des crises du milieu naturel et sanitaire, dont le rythme semble aujourd'hui se précipiter à tel point que notre humanité même pourrait se trouver en danger. Mon confrère Pierre Toubert, éminent spécialiste et de professeur au Collège de France, rappellera opportunément que toute activité humaine doit élaborer des procédés auxquels le monde des villes fut confronté, crise des écosystèmes et surtout pestes de mortalité, c'est-à-dire disettes, famines, épidémies, voire pandémies. Le professeur Pierre Toubert évoquera ainsi les multiples de perceptions de l'homme d'alors, ses idées sur leurs causes, les moyens d'y remédier. à la lumière des progrès considérables accomplis depuis une vingtaine d'années dans l'analyse des gestions du risque, il esquissera pour finir un bilan des enseignements que l'histoire du Moyen-Âge apporte sur les éléments de modernité que révèle l'étude des crises et des attitudes médiévales face aux risques naturels et sociaux. Attaché tout autant à l'actualité culturelle, à la présentation de vastes panoramas illustrant le rôle scientifique joué par notre Académie, notre compagnie a tenu à s'associer également cette année à la riche série des manifestations organisées dans le cadre de la présente saison de la Turquie en France. Placée sous l'égide des ministères des Affaires étrangères et de la culture de nos deux pays, quelques 400 événements se déroulant de juillet 2009 à mars 2010. Madame la Junière, membre de l'Académie, archéologue bien connue par ses fouilles sur la des mineurs, viendra apporter son éclairage d'expert des mondes antiques dans le concert des relations et partenariats qui rapprochent Istanbul et Paris. Une recension des activités archéologiques françaises déployées dans l'immense Anatolie depuis l'époque de la monarchie de Juillet et la découverte de la capitale du royaume hittite par Charles Texier, membre de l'Académie, mettra en lumière l'ampleur de la fascination continuellement suscitée chez les chercheurs français par la diversité et la richesse des cultures qui se sont succédées. Comment ne pas rendre hommage ici, au titre d'une collaboration des plus fructueuses, aux membres de notre compagnie, parmi lesquels prennent place les frères Salomon et Théodore Reynac, à ses confrères qui ont participé à l'immense effort ayant notamment conduit à la création du musée archéologique de Constantinople, d'Osman Hamdi Bey, grand ami de la France, correspondant étranger de l'Académie, fut la ville et brillant directeur à partir de 1881. Assurément, il convient de souligner également l'intérêt provoqué auprès de notre compagnie par les travaux de la mission française qui, de 1913 à 2000, a œuvré sur le site de Claros, un ancien sanctuaire oraculaire situé entre Smyrne et Éphèse, et dont Juliette de la Jonnière a assuré la direction de 1998, engrangeant une belle moisson de découvertes majeures. Cet engagement séculaire, nourri par la passion du patrimoine turc, notre compagnie a voulu tout récemment encore manifester la vigueur en proposant, en tant que lauréat du Grand Prix d'archéologie de la Fondation Simone et Cino del Duca, d'un montant considérable de 200 000 euros, le nom du professeur Descourti et la mission qu'il poursuit actuellement, l'exploration de la cité de Xanthos en Lycie, ainsi que l'étude et les restaurations dans le sanctuaire voisin du Lutéronome. Dans le même esprit de dialogue, et pour célébrer plusieurs siècles d'influence réciproque, un colloque se tiendra prochainement, ses assises au Palais Mazarin. Durant ces journées, des savants venus des quatre coins du globe s'interrogeront sur l'orientalisme dans l'Empire ottoman et les idées reçues qu'il véhicule depuis le XVIIIe siècle. Tels sont les signes tangibles par lesquels notre Académie exprime ses souhaits de coopération à l'égard de la communauté scientifique turque. Avant de céder la parole aux orateurs, je souhaiterais me plier à un dernier devoir, une coutume qui consiste à célébrer les mannes de ceux de nos membres qui furent les plus éminents ou dont le rôle fut les plus notables dans la marche de notre Institut de France. Au nombre de ceux-ci tient indéniablement une place à part l'abbé Leblon, savant du Bismarck, nommé associé de l'Académie en 1772, après avoir remporté plusieurs fois son prestigieux prix Kélus, puis élu membre de l'Académie de France en 1795. Disciple de l'abbé Jacques-Jean Barthélemy, le fameux défricheur du palmyrénien du Phénicien, Leblon formé à l'époque des Lumières, fut administrateur de la Bibliothèque des Quatre Nations de 1791 à 1801. Fait remarquable, il en sauva les précieux fonds de la dispersion durant la tourmente révolutionnaire, enrichissant même de plusieurs dizaines de milliers de volumes ainsi que de nombreux objets d'art qui ornent aujourd'hui encore notre salle de lecture. À l'érudit conservateur, notre maison a tenu à rendre un hommage tout particulier à l'occasion du bicentenaire de sa mort. Ainsi vient de sortir des presses un splendide album réunissant quelques-uns des trésors entrés dans les collections de la bibliothèque Mazarine grâce au génie de ce second fondateur. En l'occurrence, 30 livres exceptionnels qui se peuvent admirer grâce à une exposition actuellement organisée en sa mémoire de l'autre côté de notre cour d'honneur. Peut-on souhaiter, dans notre époque si désespérément troublée et cruelle, que la contemplation réfléchie de tels chefs-d'œuvre et l'exaltation de vertus exemplaires soient pour nous tous un gage d'espérance? C'est le vœu auquel vous prie de s'associer en ces jours de rentrée solennelle notre Académie des inscriptions et belles-lettres.
Monsieur Pierre Toubert, membre de l'Académie, a la parole pour la lecture de son discours intitulé « Perception et gestion des crises dans l'Occident médiéval ».
L'histoire, comme aimait à le rappeler le grand historien Lucien Febvre, est la fille de son temps. C'est dire que ce sont souvent les problèmes du présent qui sollicitent notre quête du passé et fixent le choix de nos sujets d'étude. C'est dans cet esprit, mesdames et messieurs, que j'ai conçu le projet de vous entretenir ce soir de la perception et gestion des crises dans l'Occident médiéval. Jamais autant qu'aujourd'hui, en effet, nos sociétés n'ont été assaillies non seulement par une crise profonde, mais aussi par le désir d'en saisir les causes et les effets, et donc de proposer des remèdes ou des conduites de gestion appropriées. Un remarquable Center for Risk Management s'est ainsi créé auprès du King's College de Londres. Des recherches d'une rare qualité sont aussi menées aux États-Unis auprès du Harvard Center for Crisis Analysis. Je ne rappelle que pour mémoire le succès considérable qu'a connu en France la traduction de l'ouvrage d'Ulrich Beck sur la Risikogesellschaft et le travail de réflexion qu'il a suscité chez nous. C'est à la lumière de ces acquis récents que je voudrais vous présenter aujourd'hui quelques réflexions, sans plus, sur les crises médiévales et sur les enseignements que l'on peut, me semble-t-il, tirer de l'analyse de ce passé à la fois si lointain et si présent dans nos curiosités intellectuelles. Par souci de clarté, j'examinerai successivement trois ordres de problèmes. Premièrement, je voudrais tout d'abord évoquer rapidement les types de sources dont nous disposons pour cerner le problème des crises médiévales. Je m'attacherai ensuite à définir les types de crises que ces sources nous permettent d'identifier ainsi que leur contexte. Je voudrais enfin et surtout me pencher sur les modes de perception de ces crises que se sont fait les contemporains, sur les idées en somme qu'ils ont pu se forger quant à leur cause et quant aux moyens d'y remédier. Nous pourrons ainsi, je l'espère, esquisser pour conclure un bilan des éléments de modernité discrets mais réels que nous révèle une telle approche de la perception des crises par l'homme médiéval. Envisageons donc d'abord le problème de la typologie des sources. Pour le haut Moyen Âge, et j'entends par là la période qui va jusqu'au Xe, XIe siècle, on constate assez paradoxalement que les sources qui forment alors le terrain de manœuvre favori des médiévistes, les recueils de chartes ou les cartulaires, n'offrent que peu d'éléments utiles. Il faut nous tourner vers d'autres types de sources. Ce sont en effet les annales et les chroniques, essentiellement monastiques, qui nous livrent les données les plus précieuses. Avec leur goût naturel pour l'extraordinaire et le merveilleux, elles décrivent les crises d'une manière souvent, certes, stéréotypée, mais souvent aussi originale et saisissante. Elles méritent toujours, de notre part, une analyse critique attentive. À la même époque, un autre type de source bien connue, les gestas ou au fait des évêques et des abbés, ouvre des perspectives sur la conduite des décideurs ecclésiastiques en matière de gestion. Dans le même esprit, les sources hagiographiques nous révèlent, au-dessus des princes, des évêques, des abbés, les modes d'intervention des saints comme recours suprême en cas de crise. Les sources liturgiques, enfin, nous disent les prières, les mises en scène cultuelles et les pratiques dévotionnelles destinées à prémunir la société contre les risques de crise majeure et qui la menaçait. À partir du XIIIe siècle, le paysage documentaire change. Une nouvelle distribution typologique des sources révèle clairement les évolutions en cours de la société médiévale elle-même. La législation normative connaît de son côté un essor considérable. On voit s'y élaborer toute une série de dispositifs anti-crise avec les édits et ordonnances des princes et la réglementation statutaire des grandes communes. Ici et là, des magistratures et des offices plus ou moins spécialisés dans la gestion ordinaire des situations de crise se mettent en place au XIVe, XVe siècle. Ils alimentent à leur tour une abondante littérature délibérative, parfois bien conservée dans nos dépôts d'archives. Concluons sur les sources concernant les crises. On constate sans surprise que leur éventail typologique est très ouvert et d'une richesse croissante tout au long du millénaire médiéval. Jusqu'au XIIe siècle, nos possibilités d'approche dépendent pour l'essentiel de sources qui émanent du milieu ecclésiastique et concernent surtout le monde rural que ces instances encadrent. À partir du XIIIe siècle, s'amorce une montée en force des sources publiques et des sources urbaines, avec la constitution des monarchies féodales et des grandes cités-États, en Italie, en Allemagne et dans la France du Midi surtout. Ce n'est pas un des moindres intérêts de ce rapide survol des sources que de nous montrer comment, au dernier siècle du Moyen-Âge, l'emprise étatique et l'emprise urbaine ont créé de nouvelles structures de gestion des crises. Elles ont construit, en même temps, de nouveaux cadres de perception offert à notre sagacité par de tels dispositifs de gestion. Lorsque l'on passe de l'évocation des types de sources à celle des crises elles-mêmes dont ces sources nous livrent l'accès, il convient tout d'abord de définir la conjoncture de longue durée qui en forme la toile de fond. Or, cette conjoncture, fort heureusement, fait aujourd'hui l'objet d'un rare consensus tant parmi les spécialistes de la démographie historique que chez ceux de l'histoire économique. Tous les indicateurs à notre disposition permettent en effet de voir dans le millénaire médiéval une répartition de ces fondamentaux en trois cycles de longue durée. Le premier va de l'Antiquité tardive jusqu'au 8e siècle, peut-être 9e siècle. Il est marqué par une lente et constante dépression de la démographie, de l'économie, des techniques, de la production et des réseaux commerciaux. Le tout dans un contexte bien connu de décadence des villes et de dégradation monumentale de leurs espaces. Le point le plus bas semble atteint au milieu du VIe siècle et dans les décennies successives, au moment où une démographie déjà déficitaire de longue date est frappée de plein fouet par une grande pandémie de peste bubonique désignée par les historiens sous le nom de peste de Justinien, dont les effets dévastateurs ont été bien mis en lumière par des travaux récents. À partir du 8e siècle, apparaissent les premiers signes d'une reprise. Parmi les capacités de récupération offertes par l'économie agraire et par les cadres de gestion de la seigneurie rurale, cette reprise est d'abord démographique. Elle se traduit, dès le Xe siècle, par la conquête de nouveaux espaces agricoles par voie de défrichement, par la multiplication des villages, puis, comme on le sait bien, par une renaissance de la vie urbaine dont les prodromes des 10e, 11e siècles se confirment avec éclat au 11e siècle, au 12e siècle, en Italie du Nord d'abord et dans les Flandres, puis dans les pays d'entre Loire et Rhin. Ce cycle d'expansion générale, dont les effets cumulatifs atteignent leur apogée au XIIIe siècle, est brisé au milieu du XIVe siècle par l'offensive ravageuse d'une nouvelle pandémie de peste bubonique venue d'Asie, la fameuse peste noire de 1348, dont l'impact sur la démographie est évidemment mieux connu que celui de la peste justinienne, avec un taux de mortalité qui peut être évalué à quelque 30%, voire plus, de la population. Et je rappelle, pour simple mémoire, que l'on estime entre 1 et 2% le taux de létalité de la grippe espagnole de 1918. Dès lors, et jusqu'aux dernières décennies du XVe siècle, l'Occident connaît à nouveau un cycle long de dépression auquel la découverte du Nouveau Monde mettra un terme. Désormais, l'Occident s'ouvrira aux horizons modernes et à cette économie-monde dont Fernand Braudel a été l'explorateur pionnier et pénétrant. Le millénaire médiéval est donc loin d'avoir connu une croissance linéaire. En termes de cycles de longue durée, les vieux cycles dits de Kondratiev, cette originalité tient à l'existence d'un très long cycle d'expansion, un cycle A, allant des 8e, 9e siècles jusqu'à la première moitié du 14e siècle, encadré par deux cycles de dépression, le cycle B de Kondratiev, celui des 5e, 8e siècles, et celui des 14e, 15e siècles. Cette ordonnance en triptyque nous a valu de grandes visions d'historiens, en dehors même de l'histoire économique et sociale, dans le domaine de l'histoire de la culture, de la sensibilité, de la création artistique. Comment ne pas évoquer à ce propos les noms de Jacob Burckhardt, Émile Malle ou Erwin Panofsky, celui de Georges Duby, historien total de l'apogée féodale des 10e, 13e siècles, et celui de Jean Huizinga et de son admirable Automne du Moyen Âge. Ce qui importe pour nous de noter aujourd'hui, c'est qu'au-delà des mouvements de grande amplitude que nous révèle cette analyse macroéconomique, le millénaire médiéval a constamment eu à surmonter des crises périodiques, à la fois assez fortes pour nous avoir laissé des traces documentaires les plus claires, et en même temps assez bien contenues pour avoir scandé les cycles longs sans en perturber les tendances de fond. Ce sont ces crises, en somme surmontables et toujours surmontées, qui vont nous retenir plus que les deux grandes pandémies pesteuses déjà bien étudiées, de Justinien et de 1348. Les seules qu'est connu, notons-le au passage, le Moyen Âge, les seuls qui aient été capables, par leur impact catastrophique sur la démographie, d'inverser la tendance de fond de l'économie, de la vie économique et sociale. Pour le reste, au contraire, les crises ordinaires, si l'on peut dire cycliques pour faire bref, s'inscrivent de la manière la plus concrète sur l'horizon d'angoisse permanente de l'homme médiéval. La diversité des récits et descriptions de crises qui ponctuent annales et chroniques en éclaire bien les caractéristiques les plus constantes, leur extension géographique, la chronologie de leur récurrence. Certes, une croissance démographique assurée depuis le IXe siècle avait contraint les sociétés essentiellement agraires à répondre à cette croissance par des efforts acharnés en vue d'assurer en parallèle la progression qualitative et quantitative du volume des subsistances disponibles. sans avoir jamais bénéficié d'une grande révolution agricole. C'est néanmoins grâce à des progrès empiriques dans les domaines de l'outillage et des façons culturales que le beau Moyen-Âge des Xe, XIIIe siècles avait créé les paysages agraires dont nous sommes les héritiers. C'est à ce même travail de quête opiniâtre de nouvelles ressources alimentaires que l'on avait mis en place dans l'Europe du Nord-Ouest les pratiques productivistes de la rotation puis de l'assolement triennal en céréaliculture. Sans être en reste d'énergie créatrice, les paysans méridionaux avaient développé de leur côté une polyculture vivrière intensive de huerta, la vigne, l'olivier, la transhumance pastorale. L'analyse de nos crises cycliques se résume ainsi finalement en un grand constat, celui de l'échec périodique de ces efforts soutenus en vue d'établir dans la longue durée des conduites et des pratiques collectives de prévention du risque majeur auquel toutes les sociétés médiévales ont été confrontées, le risque de pénurie alimentaire. Disons-le donc tout net, la crise médiévale, définie dans son profil collectif élémentaire, c'est la famine causée par la rupture critique des équilibres ordinaires de la gestion des agrosystèmes de subsistance. Tout aussi clairement nous apparaît la cause de ces ruptures critiques. C'est la catastrophe météorologique pour laquelle, précisément, il n'existait aucune prévention. On connaît bien l'intérêt obsessionnel que les annales et les chroniques ont porté à la notation des faits météorologiques, au type de temps, aux catastrophes nées des variations climatiques. On sait tout le profit qu'en ont tiré les historiens du climat depuis les remarquables travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie et de ses élèves. D'une source à l'autre, par une telle confrontation attentive des lieux, des temps et des conduites, on peut reconstituer le décours ordinaire de toute crise périodique. Esquissons-en brièvement une sorte de portrait collectif idéal. Au départ, souvent, mais pas toujours, un signe astral prémonitoire, une comète, ou le plus souvent, une éclipse solaire ou lunaire, ou une pluie de météorites. Venant ensuite un désordre climatique extraordinaire, marqué du double sceau de son caractère inouï, généralement en raison du froid, de la pluviosité ou au contraire de la sécheresse, mais surtout de la répétition de ce désordre. On observe ainsi que nos crises sont marquées non par une catastrophe climatique, mais par la succession de deux, voire trois années catastrophiques. C'est cette répétition qui crée la famine, par l'impossibilité qu'elle engendre d'assurer le réensemencement des terres et donc de reconstituer le cycle régulier de la production céréalière. Dernier aspect typique, l'accompagnement obligé de la famine, c'est évidemment la guerre, la maladie et la mort, cette peste au sens large qu'apporte avec lui, en même temps que la famine, le cavalier du dernier sceau de l'Apocalypse. Le recours lexical de nos sources narratives est à cet égard d'une éloquente uniformité. Et une crise est toujours connotée par trois ou quatre vocables, toujours les mêmes, famès, carestia, associé à pestilentia, ingens mortalitas. À côté, cependant, des analystes monastiques qui se contentent souvent de marquer telles ou telles années d'une notation brève, du type « cette année, il y a eu grande famine et mortalité », nombre de chroniqueurs tissent un récit des plus colorés. Deux thèmes majeurs que je ne peux ici qu'évoquer y sont développés. Le premier, c'est celui de l'horrible décomposition des corps en proie à la famine, hélas si souvent conforme aux images dont plusieurs régions d'Afrique et d'Asie nous permettent aujourd'hui de mesurer la cruelle exactitude. Le second thème dominant, c'est celui des efforts insensés faits pour pallier de telles manières, de diverses manières, la carence alimentaire qui transforme la menace chronique de disette en famine catastrophique. Dans toutes nos sources, le plus souvent d'ailleurs indépendantes les unes des autres, les mêmes recours du désespoir se répètent. On cueille toutes sortes, on ramasse toutes sortes d'herbes inconnues pour en faire des bouillons qui se révèlent mortels. On arrache de même les racines et les écorces des arbres. On recueille des terres argileuses dont la couleur blanche donne une illusion de farine pour tenter d'en faire des pains impossibles, etc. La nécrophagie, l'anthropophagie sont non seulement évoquées, mais souvent illustrées par la description complaisante des conduites les plus abjectes. Des parents dévorent leurs jeunes enfants, des solitaires au fond des forêts transforment leurs ermitages en autant de pièges pour les vagabonds qu'ils tuent et qu'ils dépècent en d'innommables boucheries, etc. Je n'entends pas m'engager ici plus à fond sur ce problème un peu trop aguicheur à mon goût de l'anthropophagie dans les situations de détresse extrême, qui n'est d'ailleurs en rien spécifique du Moyen-Âge. Comme l'avait fort bien écrit notre regretté correspondant Pierre Bonassi dans une étude consacrée aux aliments immondes et au cannibalisme de survie dans l'Occident médiéval, la vérité de tels témoignages ne peut être écartée. Ce n'est pas, en effet, le folklore de ces cas limites dont se délectent quelques chroniqueurs qui méritent de nous retenir, mais bien plutôt l'étude des conditions de perception du risque de crise alimentaire et celle des dispositifs ordinaires de prévention d'un tel risque majeur et récurrent. On notera très brièvement que le haut Moyen-Âge nous offre les derniers exemples connus de prise en charge des grandes famines de l'État dans la tradition de l'Empire romain tardif, telle d'ailleurs qu'elle se survit alors dans l'Empire byzantin. Charlemagne a ainsi pris à plusieurs reprises des dispositions pratiques de lutte contre les famines, ceci en édictant des mesures visant à constituer des stocks de céréales dans les greniers du fisc et à ordonner la distribution caritative des réserves ainsi aménagées. Cette politique anornaire, dans la tradition romano-impériale, est attestée lors des grandes famines de 780, 92-93, 805-806. On n'en trouve plus trace après 806. À partir de l'effondrement de l'Empire carolingien et jusqu'au XIIIe siècle, se dessine une relève dans la politique de gestion des crises que l'on pourrait qualifier de féodale. Elle met en avant de nouveaux modèles de décideurs en temps de crise, les évêques, les abbés, les princes territoriaux, la classe seigneuriale en général. Quelques chroniques des XIe, XIIe siècles se révèlent d'un intérêt particulier pour l'analyse de la conscience du risque et des réponses qu'ont pu apporter ces nouveaux acteurs du jeu social. Sans pouvoir en analyser ici plus longuement les éléments, ces sources nous permettent cependant de dégager une sorte de modèle de comportement qui me paraît caractéristique de la phase féodale des modes de perception et de gestion des crises cycliques. Il est clair que l'action des décideurs ne se limite pas alors à des distributions caritatives, essentiellement de pain, mais engage des dispositifs plus complexes de réflexion sur le risque et de réponse politique. Plusieurs décisions techniques sont intéressantes à relever dans la mesure où elles dénotent une volonté de gestion prévisionnelle de la crise. La conscience du risque de famine est en effet très généralement associée non à une menace de récolte catastrophique, mais à l'anticipation d'une succession dramatique de plusieurs cycles céréaliers déficitaires. On notera ainsi, par exemple, qu'une intelligente mesure prise par les évêques de Liège au XIIe siècle faisait obligation aux paysans d'accorder une large place de leur surface cultivée aux légumineuses susceptibles d'assurer une soudure alimentaire efficace entre deux récoltes céréalières déficitaires. Une politique de fixation autoritaire du prix maximum des diverses céréales en période de crise est déjà attestée au XIIe siècle, mais elle devient routinière à partir du XIIIe siècle, au moment où les monarchies, les princes, les grandes communes italiennes mettent en place des politiques de gestion des crises plus complexes, rendues plus efficaces aussi, grâce à la maîtrise d'appareils administratifs développés. Des mesures fixant des moratoires en matière de baux ruraux ou plus généralement de prêts à intérêt deviennent constantes au XIIIe et au XIVe siècle. La lutte des États contre les effets sociaux dévastateurs des crises frumentaires se conjugue alors avec une lutte contre l'envolée des taux usuraires et de l'endettement du monde paysan. Des jugements critiques, encore rares et sporadiques avant le XIIIe siècle, nous renseigne dès lors sur la perception commune d'une mauvaise gestion des crises. Des vagues de critiques sont ainsi suscitées en milieu urbain et surtout dans l'Italie des XIVe, XVe siècles par le malgoverno communal. Ces dernières observations m'acheminent vers ma conclusion. Je voudrais en effet souligner pour finir l'intérêt des incitations problématiques que le spécialiste du Moyen-Âge peut retirer des recherches actuelles sur le risk management évoqué plus haut dans mon exposé. Résumons-les pour finir. Le niveau de perception du risque, tout d'abord, est sans doute aujourd'hui beaucoup plus élevé, extrêmement élevé, en raison de la mondialisation des risques et de leur association dans la conscience collective, à des conduites criminelles, terrorisme, bioterrorisme, danger nucléaire, pandémie virale et recours redouté, parfois hélas bien à tort, aux armes dites de destruction massive, etc. Force est de constater que ce triple mouvement de mondialisation, de criminalisation planétaire et de manipulation du risque commence bien à se faire jour dans la conscience médiévale. Les annales et chroniques des IXe, XIIe siècles soulignent bien, en effet, dans le cas des famines, guerres et pestes qui leur sont associées, le déchaînement des comportements criminels, ainsi que le caractère transfrontalier, voire carrément mondial, des menaces de crise perçue comme susceptible de s'étendre per totam Galliam, Germaniam et Italiam, per orbem terrarum, etc. C'est ainsi, me semble-t-il, à propos de la conscience du risque de famine que la mentalité médiévale a dépassé le plus volontiers les horizons géographiques bornés qui lui sont traditionnellement assignés. Bien sûr, il manque encore à cette perception médiévale du risque planétaire, un élément décisif de compréhension, la capacité, entre guillemets, scientifique, d'en définir l'étiologie et les pathogénèses. Rien ne serait cependant plus malheureux que de passer à côté de ce qui m'apparaît comme le vrai problème historique, à savoir la capacité de l'homme médiéval à construire sa propre étiologie des crises, et par là même à faire de la perception du risque un objet culturel offert à notre analyse. Au-delà, en effet, du sentiment commun selon lequel les crises ne sont que le prix dont les hommes payent leur péché, peccatis nostris exigentibus, l'analyse révèle une sensibilité médiévale tendue vers une recherche causale diversifiée. Dans le cas des famines, l'identification de causalités liées à des phénomènes célestes exceptionnels, comètes, éclipses, pluies de météorites, etc., et à des conjonctions astrales défavorables est, on l'a vu, très général. Ces dernières sont donc ainsi perçues à la fois comme un champ de rationalité scientifique et comme un domaine d'inaccessibilité. Cette dernière n'exclut cependant pas un certain niveau d'emprise humaine sur les effets du risque encouru, qu'il s'agisse d'épidémies, de famine ou d'ailleurs d'incendies. Notons en effet que la détermination de conjonctions astrales défavorables peut naturellement déboucher sur la conscience d'une prévisibilité astrologique de la crise. La croyance commune en une causalité astrale des crises n'exclut donc nullement d'autre part l'idée que des facteurs humains aient pu, de leur côté, jouer un rôle adjuvant dans le déclenchement des crises. Les chroniques toscanes du XIVe siècle, en particulier celles de Giovanni Villani, sont souvent attentives à faire la part des causalités célestes d'un côté et celles des causalités sociales de l'autre, c'est-à-dire le plus souvent de l'incompétence des gouvernants. D'autres traits, notés en passant, nous invitent aussi à doter d'une certaine modernité la perception médiévale des crises. La liaison y est déjà en effet bien explicite entre crise et conduite criminelle de transgression sociale, en l'occurrence surtout conduite de stockage et d'accaparement des subsistances. La crise justifie la mise en œuvre d'instruments de prévention anti-risque à forte composante policière dans les communes italiennes des XIVe, XVe siècles. Également présente dès notre époque est l'idée que la gestion du risque n'échappe pas à une contestation légitime par l'opinion publique des dispositions prises par les décideurs politiques. Notons enfin, et c'est là un acquis essentiel des derniers siècles du Moyen Âge, que la perception sociale des crises, frumentaires ou naturelles, s'est alors accompagnée d'une affirmation du principe de solidarité en temps de crise. Ce dernier principe ne peut lui-même être abstrait de la prise de conscience, au dernier siècle du Moyen Âge, des devoirs plus généraux d'assistance par l'État en cas de crise de famine, d'épidémie ou d'incendie catastrophique. Certes, de grandes questions n'ont pas été abordées faute de temps. Je n'ai pas pu traiter, par exemple, des crises financières qui, au XIVe siècle, ont ébranlé tout l'édifice bancaire florentin. Je dois me contenter de vous prier de croire qu'elle n'offre aucun point de comparaison utile avec les crises financières que nous connaissons depuis 1929 et ainsi de suite. À vrai dire, j'aurais rempli mon objectif plus modeste si je vous ai convaincu non seulement du fait que le Moyen Âge a traversé des crises typiques, mais surtout qu'il a su faire de ces crises un objet culturel participant à sa vision générale de ce que le grand médiéviste Wolfram von den Steinen appelait le cosmos du Moyen Âge. Merci beaucoup.
Madame Juliette de la Genière, membre de l'Académie, a la parole pour la lecture de son discours intitulé « Prospection et fouilles archéologiques françaises en Turquie ».
De tout temps, la Turquie a exercé sur les Français un attrait considérable. Est-ce à cause de l'entente entre François Ier et Soliman le Magnifique, une alliance évoquée aujourd'hui au musée des Coins, ou serait-ce le souvenir de l'étrange roman d'Aimé Dubuc de la Riverie, cette jeune Française née en Martinique en 1776, qui, après avoir subi un enlèvement dramatique, s'est retrouvée au Saraï d'Istanbul, où, selon certains, elle serait devenue Naksidil Sultan, mère très aimée du sultan Mahmoud II, sultane validée qui aurait été honorée d'un cénotaphe près de la mosquée de Fatih à Istanbul. Elle aurait, dit-on, contribué à réduire les tensions dans les relations diplomatiques entre la France et la Sublime Porte au temps de la campagne d'Égypte de Bonaparte. C'est justement l'extraordinaire moisson scientifique récoltée par les savants français lors de l'expédition d'Égypte qui a inspiré la décision de Guizot, alors ministre de Louis-Philippe, d'organiser une mission en Asie mineure à la recherche de cités anciennes. Après avoir consulté l'Académie des inscriptions et belles-lettres, il en confia la responsabilité à Charles Texier, architecte et historien de l'Antiquité. L'accueil très bienveillant que le sultan et les ministres de la Porte réservèrent à Charles Texier nous est connu par les lettres qu'il adressa à cette académie. Ses bonnes conditions lui permirent de pénétrer au cœur de l'Anatolie, dépassant le village d'Angora, l'actuel Ankara, et de découvrir les ruines grandioses de Boasköy avec ses fortifications massives en appareil cyclopéen, que l'on peut, disait-il, longer entièrement à cheval. Frappé par l'importance de cette culture encore inconnue, Charles Texier entreprit d'en établir une documentation systématique. Il accomplit ce travail en 3 années sur place et on lui doit le premier plan de la cité antique sur lequel il situa les ruines imposantes du palais royal au sommet du Büyük Kale, celle plus bas du temple du dieu de l'orage et de la déesse solaire. C'est encore Charles Texier qui découvrit, à quelques kilomètres de Boasköy, l'ensemble monumental de Yazilikaya, ses reliefs sacrés creusés dans le roc, dont il exécuta une série de gravures et des relevés précis. Les recherches françaises à Boasköy et Yazilikaya se poursuivirent au temps de Napoléon III, sous la direction de l'archéologue Georges Perrault, qui enrichit le nombre des relevés, des gravures et établit une première documentation photographique de qualité des 2 sites. La mission française participa également à la sauvegarde des reliefs d'Al-Hadja Ayyub. Et c'est en 1893-94, au cours de l'expédition suivante dirigée par Ernest Chantre, anthropologue et préhistorien, que furent découverts les premiers fragments des archives royales en une langue inconnue. Il avait découvert le hittite. Les recherches des savants français à Boasköy et Yazilikaya furent interrompues en 1906, lorsque, au temps du plus grand prestige de Guillaume II, l'autorisation de fouille fut octroyée à une équipe de chercheurs allemands. Vers la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, quelques très fortes personnalités occupent le devant de la scène à Constantinople. Osman Hamdi Bey en sera le chef d'orchestre. Il avait fait à Paris des études de droit, pendant lesquelles l'essentiel de son temps avait été consacré en réalité à suivre des cours d'art auprès du peintre Boulanger. Après avoir occupé quelques postes administratifs qui ne l'enthousiasmaient guère, il reçut en 1881 la direction conjointe du musée archéologique et de l'école des beaux-arts. Infiniment cultivé, très ouvert, il sut s'entourer de collaborateurs de grande qualité, très spécialisés dans l'étude des antiquités qu'il s'employait à sauver. Le premier d'entre eux, qui lui fut présenté par le dynamique ambassadeur Tissot en 1881, fut Salomon Reynac, l'un des 3 frères Reynac, tous grands érudits. Il noua avec lui une amitié qui dura toute la vie. Salomon Reynac, lorsqu'il entreprit pour Hamdi Bey une étude des pièces du musée de Constantinople, avait déjà une expérience de travail en Anatolie, expérience acquise lors des fouilles qu'il avait dirigées avec Edmond Potier dans la nécropole de Myrina depuis 1880. Jusque-là, les riches mobiliers funéraires de Myrina avaient fait la fortune des fouilleurs clandestins. Les deux jeunes gens, 22 et 25 ans, eurent l'énorme chance de bénéficier de l'hospitalité de la famille Baltazzi, qui avait là de grandes terres et une vaste et belle maison. L'atout considérable que représentait l'appui de cette famille de notables est exactement ce qui a manqué à un autre helléniste français, Amédée Hovette, qui, vers la même époque, dut renoncer à l'étude du théâtre de Théos, car il ne connaissait pas les notables locaux, les Baladurs, riches commerçants de Smyrne. Salomon Reynac et Edmond Potier, au contraire, purent mener à bien l'exploration de quelques 5000 tombes de Myrina, datables entre le IIIe et le Ier siècle avant Jésus-Christ, dont certaines renfermaient en abondance des figurines de terre cuite, souvent en bon état et conservant des traces de polychromie. Les deux savants purent établir que le groupement des terres cuites dans chaque sépulture répondait à une cohérence thématique, un choix en rapport avec le sexe, avec l'âge, avec le statut social du défunt. De leur vie quotidienne, rythmée par les horaires du chantier, on entend les réflexions d'Edmond Potier, futur conservateur en chef du Louvre, qui, dans des lettres pleines d'humour, évoque l'heure de la sieste, lorsqu'il mangeait des œufs durs à l'ombre d'un figuier, tandis que Salomon Reynac montait dans l'arbre voisin, s'allongeait entre les branches et, protégé par le feuillage, reprenait la rédaction de sa grammaire latine. Jusqu'en 1910, Hamdi Bey poursuivit ses travaux d'organisation du musée d'Istanbul, de l'école des Beaux-Arts et d'une bibliothèque. En même temps, il veilla à la publication des antiquités du musée, appelant pour cette tâche un autre Français, Gustave Mendel, qu'il nomma conservateur des musées impériaux. En une dizaine d'années, Gustave Mendel publia une série de remarquables catalogues des musées impériaux ottomans, des ouvrages que nous utilisons encore quotidiennement et qui n'ont jamais été remplacés. Un autre Français, Félix Sartiaux, à la fois archéologue, topographe et ingénieur des ponts et chaussées, mena en 1913 une première mission à Fossé, la métropole de Marseille. En peu de temps, il établit et publia aussitôt un plan au 5000e de la ville antique et de ses environs. Les travaux furent interrompus par les événements dramatiques de juin 1914. Ce fut aussitôt après la Première Guerre mondiale. Et lorsque Sartiaux reprit le travail en 1920, le chantier fut presque immédiatement arrêté, à nouveau, par la guerre gréco-turque. Une autre entreprise française avait commencé juste avant la Grande Guerre. C'était la fouille de Claros, au sud de Smyrne, ouverte en 1913 sur l'initiative du professeur Macready, conservateur adjoint du musée de Constantinople. Le chantier fut mené conjointement par l'archéologue Charles Picard et lui-même. Cette première campagne mit au jour les propylées monumentaux du sanctuaire d'Apollon, révélant ainsi l'importance de cette zone sacrée. Les marbres couverts d'inscriptions en faisaient un dépôt d'archives à ciel ouvert. il fallut attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que soient reprises les recherches à Claros. Le directeur de la mission fut Louis Robert, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. En une dizaine d'années, entre 1950 et 1962, menant la fouille depuis les propylées vers le nord, il mit au jour une série de monuments honorifiques qui le conduisirent à l'angle sud-est du temple hellénistique d'Apollon, dont il entreprit l'exploration. Il découvrit ainsi l'Aditone, où les pèlerins consultaient le célèbre oracle d'Apollon et où se trouvait parfaitement conservé l'omphalos du dieu. À l'est du temple, il dégagea l'autel monumental d'Apollon et plus au nord, l'autel et le temple d'Artémis. Partout, le grand épigraphiste qu'était Louis Robert mettait au jour des marbres couverts d'inscriptions. Louis Robert ne put retourner à Claros après 1962. Les années passèrent. Les masses de terre accumulées au long des tranchées de fouilles, s'ajoutant aux 3-4 mètres d'alluvion qui recouvraient les niveaux antiques, s'écoulaient sur les monuments qui disparaissaient progressivement. Un maquis touffu s'était formé dans ce milieu humide. Il abritait des arbustes vénéneux, mais aussi des araignées, des serpents, des scorpions et autres animaux peu accueillants. Tout cela ne ressemblait guère au charmant bois de frêne d'Apollon que chantait le poète Nicandre. Bref, la visite du site était devenue à la fois difficile et dangereuse. À deux reprises, dans les années 80, une délégation turque demanda au ministère des Affaires étrangères à Paris que soient reprises les recherches françaises à Claros. C'est alors, en 1987, que la mission me fut proposée. Je n'acceptai cette responsabilité qu'après avoir consulté le professeur Ekrem Akurgal, doyen de l'université d'Ankara, membre associé de notre académie, qui m'avait déjà, et à plusieurs reprises, guidé dans mes travaux anatoliens. L'objectif premier des campagnes menées à Claros à partir de 1988 fut de rendre visibles les monuments découverts par Macri Dibet, Charles Picard et Louis Robert, en les libérant de leur gangue d'alluvion. Et ensuite, il fallait établir une liaison entre les propylées, le temple et l'autel, qui étaient tous séparés par des champs cultivés, les dominants de 3 ou 4 mètres. On a remis au jour la crépisse du temple d'Apollon, couverte d'inscriptions, et ensuite l'ensemble du monument. Et l'on voit ici l'Aditone et la source sacrée. Par ailleurs, il importait de résoudre le divorce entre la tradition littéraire et la documentation archéologique. En effet, tandis que les textes anciens, Nicandre, Strabon, Pausanias, évoquaient la très grande antiquité de Claros, les monuments et les inscriptions découverts par les précédentes missions appartenaient tous à des périodes récentes, hellénistiques et romaines. Il fallait donc tenter d'établir l'histoire du sanctuaire. On poursuivit en même temps ces deux objectifs, le patient nettoyage et l'enquête stratigraphique. Les sondages profonds menés au cœur de la zone sacrée ont été continués jusqu'au terrain vierge, malgré l'envahissement constant de l'eau, les blocages répétés des pompes par les crapauds ou les grenouilles. Et on a pu établir ainsi. D'abord que les origines du sanctuaire remontaient en réalité au moins au Xe siècle avant Jésus-Christ et peut-être même au-delà. Que l'importance du lieu sacré, qui dépendait alors de la cité de Colophon, était déjà grande au VIIe siècle. On le voit à travers quelques documents très archaïque. On sacrifiait à Apollon et à Artémis de précieux exvotos près des autels. Cette protomée de griffon en bronze en témoigne. L'autel, qui était rond au 7e siècle, rectangulaire au 6e siècle, est toujours plus grand. La statuaire s'est développée au 6e siècle. On offrit des corées à Artémis. On offrait des couroilles à Apollon, des terres cuites à l'image du dieu musicien ont été dédiées en très grand nombre entre le VIe et le IVe siècle. Le temple du dieu à cette époque était un monument de marbre de proportions modestes dont on peut voir ici la fondation et le premier degré de la crépisse en marbre. Il fut recouvert par le grand temple hellénistique. C'est en effet au début de la période hellénistique que le sanctuaire de Claros devint un lieu oraculaire très consulté, ce qui imposa des installations agrandies. Les autels et les temples anciens furent abandonnés et remplacés par des monuments plus vastes et mieux adaptés à leurs fonctions. Enfin, vers la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, on mit en place un dispositif sacrificiel, 4 files de blocs munis d'un anneau permettant d'attacher et de mettre à mort une centaine de victimes à la fois, des taureaux, bien sûr, comme l'évoque l'hymne à Apollon de Callimaque. Claros présente l'unique illustration concrète connue actuellement du dispositif de ces sacrifices solennels, les célèbres hécatombes, qu'une restitution graphique permet d'évoquer ici. Parallèlement aux travaux de fouilles, notre mission de Claros, après avoir achevé l'élimination indispensable des alluvions, a ouvert un programme de restauration. L'aide de la société Lafarge nous a été précieuse pour réaliser l'anastylose de 2 monuments importants, celui de Ménippos, l'un des grands bienfaiteurs du sanctuaire, et celui de Sextus Apuleius. Ce sont de hautes colonnes qui portaient la statue du personnage honoré. En même temps, nous avons mis au point un projet plus ambitieux concernant une particularité remarquable du temple d'Apollon. En effet, au-dessus de l'Aditone, s'élevait dans l'Antiquité un groupe statuaire monumental en marbre de 7 mètres de hauteur, dont nous connaissons la disposition grâce à une monnaie de colophon frappée sous l'empereur Commode. On y voit Apollon musicien, assis entre sa mère Leto et sa sœur Artémis debout. Or, par une chance unique, de nombreux fragments de ces 3 statues de marbre sont conservés sur le site. On voit ici le torse d'Artémis. Il nous a paru souhaitable de mettre en valeur cette exception clarienne. Nous avons donc entrepris, avec l'aide du professeur Jean-Marc Adet, membre de cette académie, de faire réaliser des moulages de tous les fragments conservés, de les assembler et ainsi de restituer la triade apollinienne de Claros. Une première présentation a été exposée dans l'église Sainte-Irène d'Istanbul. Puis les travaux de montage ont commencé à Claros. De nombreuses lacunes devaient encore être comblées avant que ne puisse être présenté ce magnifique ensemble. Les statues étaient tournées, comme dans l'Antiquité, vers l'autel d'Apollon, c'est-à-dire vers l'est. Emblème de Claros, la triade monumentale devait se détacher contre l'arrière-plan sombre des collines. Malheureusement, les tristes événements de l'hiver 2000-2001 ont provoqué l'arrêt de ces travaux. Je voudrais, en terminant, évoquer l'œuvre d'une mission française dont le fondateur a été Pierre de Margne, membre de cette académie. Il s'agit du site lycien de Xanthos, dont on ne connaissait jusqu'en 1950 que les prestigieuses antiquités conservée au British Museum. Dans les dernières années, sous la direction du professeur Jacques Descourtis, un important programme d'études urbanistiques a permis de clarifier l'histoire de la division urbaine avec ses transformations successives jusqu'à l'époque chrétienne. En même temps, des recherches récentes au sud-est de la ville ont conduit à l'importante découverte de reliefs qui s'apparentent à des œuvres hittites ou néo-hittites et qui, comme l'écrit Jacques Descourtis, invitent à ancrer la civilisation lycienne de l'époque archaïque dans le substrat anatolien. Parallèlement, les travaux de restauration sont en cours dans le sanctuaire voisin de Leto, après 40 années de fouilles, relevés, études et dessins de blocs. On a évoqué ici les travaux de quelques chercheurs français qui ont dédié à l'actuelle Turquie l'essentiel de leur activité scientifique. Même si leurs missions ont été souvent interrompues par des événements extérieurs, guerres, accrocs diplomatiques, financements insuffisants, etc., ils ont pu apporter une contribution importante à la connaissance de cette immense région du monde antique, ce territoire où coexistèrent, où se succédèrent des cultures diverses, une diversité, source d'influences réciproques et donc de richesses. Il est curieux de constater que la plupart de ces savants ont été membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, comme si des liens particuliers attachaient notre maison au sol de l'Anatolie. Ces liens, nous souhaitons qu'ils se maintiennent et, si possible, qu'ils se renforcent. Merci.
Vous venez d'entendre l'enregistrement de la séance publique annuelle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui s'est déroulée le 27 novembre 2009 sous la coupole de l'Institut de France.